I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé? Ça s'appelle We Love Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons? Notez bien, We Love Series, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast.
Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète et détaillée possible, bah soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs au caractère bien trempé. La langue de bois, ça, ils ne connaissent pas. Hein. Salut Julien.
Salut Clémence.
Et salut Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, lui aussi, il a du caractère. La seule différence, c'est que vous, vous ne l'entendez jamais, ses commentaires bien remontés. Salut Alain.
Salut Clémence.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent sur Patreon. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, en dehors de nos émissions, on organise aussi des projections de films qu'on aime bien et qu'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Ça s'appelle les séances Capture Mag et ça se passe au Club de l'Étoile à Paris. Alors Alain, c'est quand la prochaine séance ?
C'est très bientôt, c'est samedi, 27 novembre au Club de l'Étoile, donc pour la projection de Rocky. Et Stéphane nous a préparé un grand épisode de stéroïdes sur toute la saga qui sera projetée en avant-première à cette séance.
Tout à fait.
Très bien, donc sortez vos agendas le 27 novembre. Cette semaine, bienvenue à Raccoon City. On va parler du nouveau Resident Evil. Le film. La saga s'était terminée en 2017 avec Resident Evil chapitre final. Pour ce 7e opus, retour en arrière, on s'intéresse à ce qui s'est passé à Raccoon City en 98, alors que la ville est désertée par le géant pharmaceutique Umbrella Corporation. Le film s'inspire des deux premiers jeux originels de Capcom et on y retrouve des personnages emblématiques comme Chris et Claire Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine ou encore le méchant Albert Wesker. Derrière la caméra, le Britannique Johannes Roberts, grand habitué du genre horrifique. On le connaît pour Storage 24 en 2012 et on lui doit entre autres 47 Meters Down et sa suite 47 Meters Down Uncaged, deux films de requins. Il a par ailleurs réalisé The Stranger's Prey at Night, suite du terrifiant film The Stranger sorti en 2008. 25 ans après le premier jeu, Resident Evil cumule 110 millions d'unités vendues. C'est le gros succès de Capcom, mais au cinéma, ça donne quoi ? Alors, on jouait à Pyramide la saison dernière. Cette fois-ci, on tente le format météo. Bah oui, dans Sale Temps, on est dans Sale Temps pour un film. Hein. Donc Resident Evil, qui sort ce 24 novembre, pour vous, c'est plutôt quoi ? Plutôt ciel couvert, tempête de neige, grand soleil ?
Grosse intempérie.
Il y a la pluie un peu merdique, c'est-à-dire qu'elle a rien de glorieux, tu vois, elle est juste un peu relou, quoi.
Une sale pluie de novembre ?
Une sale pluie, ouais, pourrie, ouais.
Bon, on est bien dans l'ambiance du mois. Bah, vous allez nous expliquer pourquoi.
Qui veut commencer?
Qui veut commencer? À chaque fois, c'est la courte paille. On n'a pas Eric là pour se jeter sur le micro et commencer avant même que les jingles soient finis. Bon, Stéphane.
Alors moi, c'est-à-dire que, comment dire, je suis pas évidemment pas un grand fan des Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Hein. Enfin, il a fait le premier, il a écrit et produit le 2 et le 3, puis il est revenu avec le 4, 5, 6, qui partent dans la dégénérescence la plus totale du cinéma d'horreur. J'ai envie de dire numérique, quoi, parce qu'en fait, il part de plus en plus dans des tripes avec des grosses créatures, des trucs comme ça, etc. Et là, je pense que l'idée de celui-là, c'est d'essayer, donc, dans le reboot, de revenir aux sources, en fait, du jeu d'origine, quoi. Il se trouve qu'on les connaît quand même assez bien, hein, les jeux. Moi, j'y avais joué, en tout cas, à l'époque. Il y a eu pas mal de remakes, pas mal de trucs comme ça pour y rejouer, quoi, donc c'est pas compliqué. Et il faut reconnaître que la grande qualité des jeux Resident Evil, c'est pas forcément le scénar à proprement parler sur le papier, mais vraiment l'ambiance, l'idée que ça... Enfin, en tout cas, à cette époque-là, il n'y avait pas de truc de zombie, il n'y avait plus ça, en fait, dans la culture. Donc, quand t'avais grandi avec les films de Romero, les trucs comme ça, bah, t'étais super content de pouvoir jouer à un jeu comme ça. Il y avait une ambiance absolument terrifiante, quoi. Et j'imagine que donc Johan Roberts,
voilà, Roberts.
Le réalisateur qui a aussi écrit ce scénario là, hein, pour ce reboot, s'est dit bon bah je vais rejouer au jeu et je vais revenir en fait à la source initiale, puisque c'est un peu ce que Paul Anderson n'avait pas forcément fait, c'est-à-dire il avait un peu lâché le truc, il avait créé son perso à lui qui était le personnage d'Alice, il avait fait tout un espèce de rapprochement avec Alice au pays des merveilles, ce genre de choses, etc. Bon, c'était très en surface, hein, mais on va dire qu'il y avait, vraiment la tentative d'essayer d'adapter cet univers en fait en le faisant sien, alors que là la volonté c'est je reviens et je reprends en fait les éléments scénaristiques des Resident Evil, c'est censé se passer comme dans le premier dans un manoir, etc. etc.
Ah, c'est présenté comme une origin story.
Voilà, donc quelque chose de fidèle. Alors déjà, c'est pas fidèle pour dessous à mon sens, hein, à part quelques moments clés, quoi. Un peu fait à la va-vite, quoi. Ensuite, c'est... ce qu'on peut pas enlever, c'est juste désolé de le comparer au Paul Anderson, hein, mais ce qu'on pouvait pas enlever au Paul Anderson, c'était qu'il y avait une bonne première intro, en fait. Les 15 premières minutes étaient assez efficaces pour t'expliquer l'origine du virus, comment il se retrouvait dehors, etc., etc., les premiers zombies. Là, c'est un film qui commence 4 fois. C'est-à-dire, tu te retrouves avec une longue introduction sur les enfants, enfin les frères sœurs Redfield à l'orphelinat, pour te montrer déjà, si tu veux, qu'ils sont victimes de la corporation Umbrella, qui est la grande corporation qui lâche le virus.
C'est
etc.,
les
etc.,
grands
etc.
méchants.
Voilà, dans la saga, hein, dans les jeux vidéo. Pour ensuite te représenter la ville, si je ne dis pas de bêtises, en fait, Raccoon City, mais qui est vraiment dans la zone en 1998, pour te représenter des flics qui sont donc des personnages principaux aussi de la saga, dont notamment, alors ça c'est un truc qui m'a complètement scié, Léon Kennedy qui passe pour... Alors, faut savoir que les personnages dans Resident Evil, c'est un peu des coquilles vides, hein, ils ont des tronches de bellâtre, tu vois, c'est un peu la vision, de l'occidental par les japonais, si tu veux, une vision très très c'est soit en fait t'as Schwarzenegger, soit t'as le bellâtre à la Brad Pitt, soit t'as des trucs comme ça, c'est vraiment leur logique, sauf que là, Léon Kennedy, bah c'est un teubé, quoi. C'est vraiment un mec en fait qui est mauvais, qui sait pas ce qu'il fait, etc., etc. Et il est présenté de cette manière-là dans le film dès la scène
d'intro. C'est-à-dire que
dès la deuxième ou troisième scène d'intro, parce qu'en fait encore une fois il y a je sais pas combien de scènes d'intro.
La première fois qu'il apparaît à l'écran, il a loupé son réveil, il a la gueule de bois alors que c'est son premier jour au boulot. C'est pas glorieux, quoi.
Il y a un rapport à l'alcoolisme qui est planté, c'est vrai, dans la scène d'ouverture, qui est pas du tout traité. Mais surtout, ce qui est aberrant, c'est qu'il se rattrape jamais, ce pauvre perso, quoi. Voilà. C'est vrai que quand t'as joué à Léon Kennedy, surtout c'est le personnage que tu joues dans le 4, tu dis mais respecte-le un tout petit peu. Enfin, au moins il tire bien, quoi. Léon Kennedy, c'est censé être le joueur. Donc...
Mais la question, c'est pourquoi faire ça. C'est-à-dire parce que je pense que le réalisateur s'est posé ces questions en se disant bon bah je dois utiliser tous ces persos parce que si tant est que Capcom a une certaine mainmise en fait sur ce genre de projet, je pense que l'idée c'est de dire il faut que vous mettiez ces personnages-là. Il faut que le personnage de Jill Valentine soit dedans, il faut que le personnage de Chris Redfield soit dedans, il faut que le personnage de Leon Kennedy soit dedans, Wesker aussi, etc., etc. Et après, démerdez-vous, mais il faut qu'ils y soient. Et du coup, le mec s'est dit, mais j'ai 5 fois le même perso, en fait, en gros, si tu veux, dans mon film. Donc, j'essaye de les différencier, mais c'est pas forcément la très bonne méthode, quoi. Donc, voilà. Et après, bon, bah, il y a, on va dire, le concept même, en fait, du premier Resident Evil, qui est de rentrer dans un manoir, de découvrir, en fait, au fur et à mesure où t'avances, l'épidémie, les premiers zombies, tout ça, etc., etc., dans le jeu. Moi, je me rappelle, tout le monde se rappelle, tous ceux qui ont joué au jeu, normalement, se rappellent, en fait, de la première apparition du zombie. Qu'ils te refont, là, visuellement, texto. Et
c'est du fanservice.
Oui, mais sauf que le problème, c'est que dans le jeu Resident Evil, c'est le premier zombie. Dans le film, c'est le 25e zombie que tu croises. Donc en fait, ça sert à rien de refaire ça. Tu vois, c'est vraiment, quand tu dis du fanservice, c'est même pas correctement réfléchi, en fait. C'est ça qui est problématique. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses que tu pouvais vraiment mettre de côté de Resident Evil, hein, c'est-à-dire dans le scénar, dans tous ces trucs-là, tu pouvais réécrire les persos, retrouver les trucs. C'est un peu ce qu'a essayé de faire Paul Anderson, hein. À mon avis, il s'est complètement planté à l'époque, mais c'est un peu ce qu'il a essayé. Là, c'est tout la problématique du truc. Et alors après, il y a cette espèce de truc où... en fait, pour moi, enfin, je sais pas si ça vous a fait ça, quoi, mais moi, en fait, à un moment donné, les zombies sont tellement ridicules dans le film que j'en étais, en fait, à chercher, tu sais, les zombies. Alors, lui, c'est le zombie Welbeck, tu vois, il ressemble à Michel Welbeck, lui, c'est le zombie, tu vois, je sais pas, moi, les tuches, tu vois, enfin, je sais pas, parce qu'ils avaient tous des tronches un peu, tu vois, ah ouais, c'est vraiment, ils ont tous des tronches un peu, voilà. Donc, je, comment dire, j'ai dit grosses intempéries parce que c'est le 7e film, qu'il y a eu des films d'animation, etc., etc., que, bon, la saga Resident Evil en jeu vidéo, déjà, il y a aussi, oui, c'est bas, hein, si tu veux, t'as des très grands épisodes comme le 2, par exemple, et le 4, quoi, t'as des trucs un peu plus foireux comme le 6, par exemple, qui était vraiment chiant, comme c'est pas permis, quoi, il y a une réinvention, moi, je suis pas un grand fan du 8, par exemple, en fait, qui est sorti récemment, quoi, où en plus ils essayent un petit peu de lâcher tout le truc des zombies pour se dire bon on va s'attaquer aux autres mythes on va dire de l'horreur quoi. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment quelque chose à faire au cinéma avec ça. Et là en fait pour ce 7e film si on compte pas les films d'animation je sais pas c'est ni fait ni à faire. Et puis je sais pas si les gens qui connaissent pas Resident Evil et qui connaissent même pas forcément Resident Evil, enfin peut-être admettons des gosses qui vont découvrir Resident Evil avec ce film-là, quoi. Quoique normalement ils devraient connaître les jeux vidéo, s'ils vont comprendre en fait le fonctionnement même des zombies, parce que les créatures, nous quand on connaît les jeux vidéo, on sait pourquoi d'un seul coup il y a un mec qui se retrouve avec un bras mutant difforme, si tu veux, avec des yeux dessus ou des trucs comme ça, mais dans le film c'est des mutations, puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de, tu vois, le méchant à la fin, enfin voilà, c'est des trucs complètement.
Tu sais qu'il a muté parce qu'il s'est injecté lui-même le produit.
Oui, mais en fait, si tu veux, au bout d'un moment, la forme de la créature, elle est tellement bizarre, si tu veux, à la base, oui. Que dans un jeu vidéo japonais où les mecs pètent des boulons, tu peux, en fait, à la limite, ça participe de l'esthétique globale, mais là, c'est quand même un film occidental, tout ce qu'il y a de plus basique, si tu veux. Donc, en fait, quand tu vois ce genre de truc-là, le design, du coup, ne colle plus vraiment avec le reste de ce que ça raconte, quoi. Tu vois, enfin, pour moi, hein, en tout cas. Mais voilà, donc, gros problème de perso crétin. Malgré alors moi j'aime beaucoup l'actrice principale hein, celle qui joue Claire Redfield quoi, qui est l'actrice qui était dans Crawl de Daja, qui est vraiment plutôt quelqu'un qui a un sacré charisme et en fait voilà, mais qui bon là elle a absolument rien à jouer quoi.
C'est Kaya Scodelario.
Ouais, merci, j'arrive pas à prononcer son nom, merci Clémence, mais bon elle a rien à jouer. Si tu veux, c'est un peu un des problèmes du truc. Celle qui joue Jill Valentine aussi, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est voilà, les mecs sont un peu moins bien servis, je trouve. Ils ont quand même l'air des gros. Enfin, ils ont quand même des allures de gros buteurs, quoi. Et puis il y a un autre truc. Il y a ce personnage là de chef, enfin de shérif en fait de la ville là, qui est interprété par Donald Logue. Et alors lui, je pense qu'il est dans un autre film. C'est-à-dire que littéralement, les moments où il se met à engueuler les gens et leur lancer punchline sur punchline, etc., etc., il est littéralement. Voilà. Mais du coup, ça devient rigolo. Parce que tu te dis, lui, il a décidé qu'il allait faire n'importe quoi et il le fait, on l'a laissé faire. Quoi. Donc voilà. Donc je c'est un, moi, ce que j'appelle un reboot raté. Mais voilà.
Julien, partages-tu cet avis ?
Bah oui, c'est difficile de pas le partager. Le truc, c'est que moi, j'ai passé le film à me dire, putain, personne s'est parlé en fait sur ce film. T'as l'impression que les acteurs, ils n'ont pas parlé avec les producteurs, qu'on n'ont pas parlé avec les scénaristes, qu'on n'ont pas parlé avec le réalisateur et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que le réalisateur avait écrit lui-même le scénario. Et là, tu te dis, mais il y a un truc qui est quand même bizarre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est tellement le chaos, en fait, ce film, que tu t'as... Moi, j'ai eu l'impression, on l'a vu ensemble, on avait la même impression tous les deux en sortant, qu'on avait les personnages qui disaient en permanence qu'ils savaient pas où ils étaient, qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient, qu'ils allaient pas où ils allaient, et qu'il y avait comme ça des aveux d'échec permanents, en fait, dans ce film. C'est un truc de dingue, quoi. Et vas-y, pardon, Clémence.
Non, vas-y.
Il y a quelque chose, mais du coup, c'est vrai que t'as l'impression que, par exemple, c'est des... Comment dire, les Resident Evil, ça a toujours été un peu le bazar, moi, je trouve. Un peu moins, évidemment, sur les trois premiers et tout, mais ça a toujours quand même été un peu le bazar. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'évolution de l'histoire t'emmène vers des trucs un peu difficiles à avaler à mesure que l'échelle du récit grandit et tout. Bon, peut-être moins dans le 2, dans mon souvenir même. Bon, bref, j'ai toujours eu ça.
Tu parles des jeux, hein.
Et ça s'est vraiment accentué dans le 4, où c'était une espèce de melting pot c'est improbable, mais réjouissant. C'est un chef-d'œuvre, hein, le 4. Moi, je l'adore, mais voilà. Donc, c'est pas tant le problème. C'est-à-dire que le truc, c'est. Le truc, c'est que là, on est face à un film, on n'est pas face à des jeux, et que donc, au bout d'un moment, il faut faire aussi des choix. Et là, c'est vrai qu'il y a ce choix d'avoir adapté les deux premiers. Déjà, c'est très bizarre parce que t'es pas au même endroit, tu sens que t'as pas le temps de planter les personnages, t'as pas le temps de planter les lieux, t'as pas le temps d'explorer les lieux.
C'est pas la même ambiance en plus.
Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que le premier Resident Evil, comme on le voit dans le film, c'est dans un manoir, donc tu commences dans une espèce d'horreur gothique pour petit à petit, si tu dois essayer une progression logique dans l'un, c'est vraiment ça dans mon souvenir. Ça fait longtemps que j'ai joué, mais t'as petit à petit, t'as une progression qui t'emmène vers un truc de plus en plus high-tech. Le 2, par contre, ressemblerait plus à. Je sais pas moi, zombie de Romero. Enfin, il y a un côté foncièrement plus urbain puisque ça, c'est dans un commissariat. Donc voilà. Et là c'est le bordel. Enfin, vraiment, c'est le bazar le plus total, quoi.
Bah, je te rejoins. Je trouve qu'en fait, sur la topographie de la ville,
tu comprends.
Le titre, c'est quand même Bienvenue à Raccoon City. Mmh. Et cette ville, à aucun moment, moi, j'ai réussi à me la visualiser et me dire, alors là, c'est les inspecteurs. Là,
mais c'est vrai
le manoir. Et tu vois des lieux, mais il y a aucune connexion entre.
Non, c'est clair. Et on était tout le temps, tous les deux. Je me rappelle, t'es en train de courir après les persos. Tu sais, je me suis dit, mais elle est là, pourquoi elle exactement? Et c'est quoi son lien déjà avec lui? J'étais perdu sur tout. Et j'étais d'autant plus perdu que je raccrochais les personnages à ce que je connaissais d'eux dans le jeu vidéo. Et comme ça ne correspond pas la plupart du temps, enfin, j'étais encore plus paumé, quoi, dans ce chaos le plus total, quoi. En fait, le truc, c'est que j'ai quand même passé. En fait, il y a un truc à la fin, il y a un plan avec une vache qui se fait exploser.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit, en fait, l'effet spécial, c'est une explosion. C'est une explosion avec une incrustation de vache qui est un petit peu meilleure que ce que mes gamins ils font sur Clip, le logiciel. C'est pour vous situer le niveau, que vous n'avez pas vu les formidables courts-métrages que font mes enfants sur Clip, qui sont très bien. Mais voilà, donc ça vous situe un peu le truc, quoi. Et en fait, je me suis dit, ce film a un potentiel de nanar très fort. Sauf que le problème, c'est que je crois, alors je suis pas sûr de ça, mais je crois, en fait, le truc, c'est qu'un film comme ça, il aurait été fait même à l'aube des années 2000, on aurait bien rigolé. On serait bien marré, quoi. Sauf que, avec le numérique aujourd'hui, aussi bien en termes de filmage qu'en termes de FX et tout, et puis les nouvelles techniques de maquillage prosthétique, hein, aussi, hein, le silicone et tout. Par exemple, le maquillage du zombie auquel faisait référence Stéphane, là, l'apparition du tout premier. Il n'est pas terrible, la sculpture, elle n'est pas super belle et tout. Mais par contre, bon, bah, c'est un maquillage prosthétique en silicone, donc la peau, elle est translucide, ça passe. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que, le film, il bénéficie d'une technologie un peu trop pointue. Ça aurait été un peu plus bas, on aurait été au niveau de la vache à la fin. Là, ça aurait été soleil, bien que tu vois la canicule, quoi, qui t'abrutit un peu, et puis voilà, puis tu vas boire des coups frais, quoi. Mais là, c'est quand même juste un peu triste. T'es un peu perdu, tu sais pas ce qu'on te raconte. Le seul truc, peut-être pour essayer de rester sur une note positive, mais c'est, vous allez voir, c'est maigrichon, quoi. C'est que moi, je respecte en tout cas, voire j'aime bien l'avant-dernier film de ce réalisateur. Donc la suite de Strangers, comme de The Strangers, comme tu l'as dit, Clémence. Dans mon souvenir, bon, je l'ai jamais revu, hein, mais dans mon souvenir, il y avait une scène notamment de mise à mort dans une piscine qui était assez étonnante. Et un autre truc, c'est que de mémoire, hein, c'était un film qui se déroulait dans les années 80, ce qui faisait sens avec le slasher. Et en plus, c'était plutôt pas mal utilisé parce que là, ça se passe dans les années 90. Et alors, les amis, au niveau reconstitution historique, c'est juste l'enfer sur terre.
C'est surtout qu'ils expliquent des trucs. En fait, à un moment donné, les mecs, ils lui filment un Palm Pilot ou je sais pas quoi, là. Oui. Et en fait, il est en train de se demander ce que c'est. Et t'as envie de dire s'il y a bien quelqu'un dans les années 90. En fait, à qui on file un truc comme ça, et normalement il le sait ce que c'est. Ça... Les gosses aujourd'hui, peut-être pas, mais du coup,
au niveau temporel, ça marche pas du tout. Ils te mettent des musiques des années 90 pour bien forcer le trait.
Et en fait, parce que le Palme, à la limite, je me suis bon, et c'est vrai que le mec qui comprend pas ce que c'est absurde, mais par contre, je me suis dit, au moins, il va peut-être jouer, parce que c'est ça en fait, dans le film, t'as plein d'espoir déçus tout le temps. Tu dis, bon, il va peut-être jouer au moins avec les graphismes qui évoquent le premier, quoi. Mais non,
il y a un mec qui joue au serpent sur son téléphone.
Il y a rien à battre. Voilà, c'est ça, c'est l'enfer.
Non, mais
l'enfer.
C'est tellement pas subtil que c'est OK, c'est dans les années 90, on a compris, tu as un vieux Nokia.
Donc enfin bon, bravo. Mais j'avais bien aimé moi 47 Meters Down, enfin bien aimé, je trouvais que c'était honnête comme film d'exploitation de requins. Strangers Prey and Half, dans mon souvenir, il y avait quelques trucs à sauver et tout quand même. Et là en fait, le truc c'est que de temps en temps, je me suis dit il y a un mec qui a envie de faire un peu de cinéma. Alors c'est très maigre, mais il y a quelques ce qu'on appelle les Texas Switch là où tu fais tu changes un élément d'un autre dans un même plan. Il y en a un ou deux, notamment un truc avec un hélico qui est assez intéressant. Il utilise à deux trois reprises des lentilles à double focale. Il essaye, alors ça le problème c'est que c'est complètement ridicule, mais le mec essaye de faire des plans séquences à la Fils de l'Homme, et notamment avec le personnage du commissaire qui est absurde, c'est pareil, qui est ridicule, dont parlait Stéphane. Et alors le truc avec le truc du plan séquence dans le chaos, ça te sert aussi à bien intégrer la topographie de la scène d'action pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Alors là je vous explique la scène, le mec arrive, il y a un barrage, il se fait mitrailler la gueule.
Il peut
et
pas
il est bloqué
en
parce qu'il y a une voiture derrière, mais il peut partir quand même en arrière
au
bout d'un moment.
C'est ça qui est dingue.
Tu sais pas pourquoi. Bah j'ai vu la scène, je me dis, mais il est plus bloqué en fait. Et alors, du coup, le mec te fait un plan séquence et tout pour t'expliquer tout ça et t'es pas bloqué. Quoi.
Et tu lâches l'affaire en fait au bout d'un moment aussi sur ce genre de truc parce que voilà,
t'en as tellement que tout ne va tellement pas. Quoi. Mais quand on raconte tout ça, je pense qu'on peut se croire. S'attendre à un nanar, ce qui n'est malheureusement pas le cas.
Non, parce
et il y a un dernier truc que je voulais dire juste pour terminer, qui nous a fait aussi, on en a parlé avec Clémence aussi en sortant de la salle, qui est la séquence post-générique. Alors, c'est-à-dire qu'il y a encore une putain de séquence post-générique où on t'annonce encore un autre personnage qui est en l'occurrence celui de Ada Wong. Alors, inutile de vous dire que ça n'a rien à voir avec l'Ada Wong que vous aviez pu voir dans Resident Evil 4 notamment. Et en fait, avec Clément, je disais, mais je pense que, alors c'est une petite théorie, je la fournis parce que c'est difficile de dire un truc intéressant sur ce film de merde, mais c'est que je me demande en fait si c'est pas ce genre de truc en fait qui va vraiment définitivement tuer et ringardiser Marvel. C'est-à-dire que là, quand tu vois que tous ils font ça. Tous, ils essayent de refaire leur reboot, leur truc avec il y a une espèce d'image où ils essayent d'iconiser un tout petit peu tous les personnages foireux là qu'on t'a présenté tout le temps et tout. Je sais pas, il y a un truc où là tu te dis ces séquences post-génériques là, il faut arrêter quoi. C'est ça y est, ça devient il y a un truc, c'est en train de devenir vraiment merdeux quoi en fait.
Et là, le truc avec Marvel, c'est que les films ils existent derrière, tu vois. Mais le truc, c'est que cette séquence post-générique, moi, m'a fait penser aux séquences post-génériques dans le reboot d'Hellboy, tu vois, où tu sais que le film il sortira jamais, donc ça sert à rien de faire une il y aura pas de suite en fait, ça se plante. Si tant est que celui-là se plante aussi et qu'ils refont un reboot
Ça peut pas marcher un truc pareil. Je pense pas, je vois pas comment ça peut marcher. Et puis je pense
il faut quand même rappeler que les Resident Evil de Paul Anderson, ça a fait plus d'un milliard dans le box-office au monde pour tout. Hein.
Mais je crois que le dernier, il avait beaucoup moins bien marché.
Alors,
même l'avant-dernier,
pas aux États-Unis, mais par contre dans le reste du monde, il avait rapporté presque 300 patates. Ouais, hein. C'est
alors après les trucs,
1,233 milliard en recettes cumulées
pour les six premiers
films.
On est pas là pour parler d'Anderson, mais c'est vrai que par contre, il y avait un truc sur Anderson qui est moi aussi, j'ai jamais aimé ces films-là et tout. Mais déjà, pour le coup, je peux comprendre. Je connais des gens, je ne les filtrerai pas parce que je respecte Lou Matthews, mais je connais des gens qui ont une, qui ont un goût,
tu l'as cité.
Voilà, qui ont un goût, qui ont un goût déviant pour ces films-là.
Oui, mais là, c'est parce que c'est Mila Jovovich.
Et notamment, mais il n'y a pas que ça. Et je peux le comprendre. C'est-à-dire que c'est vrai que tu as des gros bestiaux, machin et tout. Mais il y avait un truc aussi qu'il fallait respecter chez Anderson, c'est que c'est quand même un mec qui te livre des films techniquement propres, et en l'occurrence sur la Resident Evil, il avait beaucoup travaillé le relief, il tournait en relief natif avec les caméras de l'épaisse de James Cameron et de Vin Spacey et tout. Donc il y avait aussi ce truc là et je de mémoire, alors j'ai plus les chiffres en tête, j'ai pas eu le temps de checker tout ça, mais je crois que ça avait aussi bien marché en Asie, c'est pour
ouais,
ça
ouais,
que
il
ça
me semble
autant,
qu'au Japon et tout hein, ça marche, bon,
ça
c'est
avait
ce qui
autant
étonnant,
cartonné,
hein,
mais ouais. c'est grâce aussi à ça, c'était du vrai tournage IMAX et tout.
En tout cas ils peuvent se la péter avec les chiffres quoi, mais ce que je veux dire
là,
et puis justifier
là,
ce
c'est
truc,
vraiment misérable quoi.
Là le problème de Sim aussi, c'est que tu vois l'idée de faire les deux premiers Resident Evil en un, c'est que au-delà de l'horreur gothique dont tu parlais dans le premier, dans le deuxième, moi mon souvenir c'est l'aspect post-apocalyptique, c'est-à-dire
oui, c'est
qu'en gros le truc c'est que sur un film, enfin ce qui était génial,
bah, le deuxième
quand tu
jouais, c'était
quand
à chaud en fait, t'étais dans le dernier bastion de l'humanité et qui était ce commissariat
mais vraiment ouvert sur l'extérieur
oui,
par
oui,
contre
oui.
Et du
de
coup,
temps en temps pas ouais. tant que ça hein,
ah moi je me souviens qu'il y avait en tout cas cette ambiance post-apo qui était vraiment
bah,
présente et le truc c'est que sur ce truc-là, pour moi, je me disais ah, ça, en fait, ça n'a pas été fait. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, on attendait le Twilight of the Dead de Romero. On se disait, putain, est-ce qu'il ferait un jour son film post-apo sur les zombies, vraiment, tu vois, c'est-à-dire ce truc qui sort en ville et tout ça, etc., etc. Et en gros, bah, en vrai, ce film, il existe maintenant parce qu'il y a Army of the Dead de Snyder, qui bon, on l'a déjà dit, hein, ni fait ni affaire. Il y a le Land of the Dead de Romero qui est sorti il y a une quinzaine d'années, qui ma foi a quand même beaucoup de défauts, donc il y a un vrai film à faire autour de ça quoi, c'est-à-dire sur le côté post-apo zombie etc etc, un
ça
vrai
coûte
truc
cher.
Oui ça coûte très cher c'est sûr, mais le truc c'est que lui il baise son idée en un seul film quoi, une tu vois il, d'un seul coup l'horreur gothique elle marche pas, l'horreur post-apo elle marche pas, et c'est vrai que le film tu sais pas trop tout
ça. Mais même ce concept en fait, il y a un truc avec l'heure aussi, ça m'a halluciné, ça vous avez pas fait ça vous, il y a l'heure tout le temps dans le film.
Ah oui mais parce
mais
que
je me suis dit, mais pourquoi l'heure de couper ah,
parce que
à 6 heures du mat
non, ça d'accord, mais oui, mais enfin, c'est complètement débile, ça marche pas du tout. Puis t'as l'heure qui intervient, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Il y a aucune réflexion derrière ça, enfin.
Non, et à la fin, quand tu regardes le truc du film, même s'ils reprennent des scènes du jeu, le truc avec le train, en fait, tu te retrouves dans les rives de Paul Anderson, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as l'impression que. Et ça, c'est un autre truc, en fait, d'être coincé quand tu fais un reboot de ce genre de truc, c'est de dire, ok, on revient en 98 parce que, attention, on fait table rase. Mais on fait pas totalement table rase, parce que si vous avez aimé les 6 films de Paul Anderson, il faut qu'on les cite un petit peu quand même aussi, quoi, si tu veux. Tu vois, donc le problème, c'est que c'est un film qui, bon, bah, est fait un peu, tu vois... Enfin, je sais même pas si... Je pense que c'est un film qui s'est fait vite. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, à mon avis, les droits étaient en train de se perdre, et ils se sont dit, il faut vraiment qu'on refasse un truc rapidement pour relancer la franchise, et que, oui, t'as l'impression que...
C'est un accident industriel, hein, on l'a pas dit, mais c'est clairement ça. Hein.
Mais il y a eu plusieurs revirements au niveau de la prod, hein, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé en intro, mais à la toute base, le film devait être confié à Greg Russo, qui a rejoint la prod en 2017, et puis finalement, ça s'est pas fait. Il y a eu James Wan aussi qui était sur le projet à un moment.
Ah.
Et puis
oui,
finalement
ça,
non.
Ouais. Mais il a par contre il était producteur sur Mortal Kombat, non c'est ça James Wan, non enfin je crois, enfin bon peu importe.
C'est je n'ai pas le détail de ça, mais en tout cas voilà, c'était pas Johan Roberts qui était pressenti dès le départ.
Et pourtant c'est quand même lui qui signe effectivement le scénario, comme l'a dit Julien, c'est-à-dire que c'est un des trucs où tu te dis ah bon bah en fait normalement il est censé plus ou moins avoir le contrôle de ce qu'il raconte. Moi à mon avis les tonnes d'exigences de Capcom et à mon avis les tonnes d'exigences des prods, puisque c'est les mêmes prods en fait que les films de Paul Anderson, hein. Paul Anderson est au générique, alors à mon avis il a un titre de prod exé mais pour la blagounette quoi, mais enfin pour dire voilà un titre honorifique presque, mais oui enfin le film il est effectivement, et puis c'est même pas vraiment un nanar en fait au final
il y a la vache quoi, ça c'est pas mal
ouais.
Voilà c'est rigolo ça,
et c'est une vache à la Twister un peu dans mon souvenir,
oui elle vole vers l'écran tout
oui.
ça
moi ça m'a
mal.
Fait penser au jeu vidéo Worms
ouais, c'est vrai
oui quand on balançait la vache ouais.
Voilà, c'est triste.
Ouais. Ou Monty Python.
Donc c'est une adaptation de Worms plus que de Resident Evil. Non, mais je pense que malgré tout il y a vraiment quelque chose à faire avec cet univers que le jeu vidéo lui-même commence à se poser vraiment des questions. Mais ça c'est normal, il y en a vraiment des tonnes des jeux hein, Resident Evil quoi. Parce qu'on dit Resident Evil 8, mais il y en a eu aussi, il y a eu tous les codes Veronica, les Resident Evil Revelations, les trucs comme ça, etc., etc. Et donc du coup, au bout d'un moment, ça fait vraiment beaucoup de choses. Mais
oui, le lore est très étendu.
C'est énorme. Et il y a vraiment quelque chose à faire d'intéressant, si tant est que tu n'essayes pas forcément de respecter impérativement qui couche avec qui est amoureux de machin, qui est le frère de Bidule, qui est le... Parce que ça, c'est des trucs à la... comment dire, à la jeu vidéo d'il y a 25 ans, c'était vraiment à l'arrache, quoi. Donc ouais, si tu respectes pas trop ces trucs-là, bon, il y aura forcément des fans pour gueuler, hein, mais t'as vraiment quelque chose en termes d'ambiance, en termes de style, en termes d'aspect moderne et high-tech et tout ça, etc., etc., qui était vraiment cool, quoi. Et donc, faut peut-être préciser aux gens que ça n'y est pas dans celui-là, voilà. Mais et si bien... vous voulez, par contre, je vais juste rajouter un truc. Les films ressortent, les originaux ressortent, enfin les originaux. les deux trilogies, j'ai envie de dire, allez hop, voilà, de Paul Anderson, quoi, ressortent en 4K. À cause de ce film-là. Hein.
Donc, si grâce vous... à.
grâce
à. C'était censé dire c'est grâce, non ?
Non, mais voilà, alors, non, mais ça ressort. Donc, si vous êtes fan comme Louis Matthews, hein, pour ne pas le citer, tu vois.
Cite-toi pas Louis.
Voilà, ils existent en 4K. Voilà.
Très bien. Les films dispo en 4K. Et puis, si vous voulez vous faire votre propre avis sur Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, il est sorti en salle ce 24 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait d'Affamé, le nouveau film de Scott Cooper. L'équipe en était ressortie assez divisée finalement, mais pas foncièrement... totalement déçu, on va dire.
Et Eric et Marie, ils adorent.
Voilà. C'était quoi les prévisions météo sur celui-là ?
Prévisions météo, on avait un ciel blanc du côté de Julien.
Ouais, bien déprimant, là.
Et plutôt quelques éclaircies chez Marie et Eric. D'accord. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Hello l'équipe Capture, j'espère que vous allez bien. C'est Sébastien, alors j'ai vu Affamé. Je dois avouer avoir été quand même pas mal déçu. Il y a quelques bonnes choses, bien sûr, hein, comme vous l'avez dit. Mais voilà, ça n'a pas forcément fonctionné sur moi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Scott Cooper, le réalisateur, ce qui l'intéressait vraiment dans ce film, c'est le drama et pas du tout l'aspect horrifique, l'aspect monstre, en fait. J'ai pas vraiment compris la mythologie, ce qui est quand même problématique. Il essaye de nous expliquer ça avec une pauvre scène toute pétée où les personnages principaux vont voir un chef indien qui leur explique la mythologie du Wendigo en deux phrases. C'est vraiment dommage, que je pense qu'il y avait un bon mix à faire justement entre drame social et monstre. Mais lui, tout ce qui l'a intéressé, c'est le drame social, en fait, j'ai l'impression.
Moi, je vous envoie un message pour vous dire que je veux pas entendre des messages. Je trouve que les avis sur les films sont très pertinents, sont très intéressants. Et au fait, j'ai pas envie d'entendre les avis de Jean-Marc ou Jean-Kévin qui ont un avis franchement pas très intéressant. Et je trouve que ça sert à rien. Je préférerais que vous passiez des recommandations, que les journalistes donnent des recommandations sur un autre film du même genre ou du réalisateur. Enfin bref, à mon avis, faites un sondage, vous verrez, il y a peu de gens que ça intéresse, l'avis que tout le monde a et qui n'est pas plus pertinent que ceux de vos journalistes. Voilà.
Bon, sinon, je vous ai entendu dire qu'il n'y avait pas beaucoup de bons films d'horreur dernièrement. Et force est de constater que vous avez raison, mais je vais me permettre de vous en conseiller quelques-uns. Notamment un film français qui est plus horreur science-fiction, qui est Méandre de l'ami Mathieu Turi, qui est vraiment un bon petit film à voir, un bon concept. Sinon, vous avez cité Le Rituel qui était sur Netflix comme une référence. Et bah, par le même réal, il y a La Proie du Nombre, The Night House en anglais, je crois, qui est sorti dernièrement au cinéma chez nous. Et pareil, une bonne péloche à voir dans le noir. Allez, à bientôt l'équipe. Ciao.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
Et puis merci Alain à la technique.
Merci à tous.
Merci Alain.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher « Sale temps pour un film » dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux « Pensez-y ». Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a d'autres manières de nous soutenir, vous pouvez aussi parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, on fait le pari qu'on atteint les 20 000 abonnés avant la fin de l'année ? Je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.